de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditrices et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Duterte menace de sanctions les responsables n'ayant pas atteint l'objectif de vaccination contre la COVID. L'ambassadeur de France en Australie accuse l'Australie de fraude sur les sous-marins. La BAD et l'Indonésie s'associent pour préparer un mécanisme de transition énergétique. Le ministre Paragraf et ambassadeur d'Arabie Saoudite discutent du potentiel de coopération touristique. Le ministère indonésien des Finances coopère avec 13 pays pour recouvrer les créances fiscales. 11 hôtels de la région de Nusa Dua à Bali deviennent des hôtels de quarantaine pour les touristes étrangers. Et le président invite le prince Mohammed bin Zayed au sommet du G20 en Indonésie. Bonjour, Jaitar, voici les nouvelles incomplètes. Le président philippin Rodrigo Duterte a déclaré mercredi que les responsables du gouvernement local seraient soumis à des sanctions pour non-respect des objectifs de vaccination contre la COVID-19 alors que le pays cherche à ouvrir son économie. Les Philippines, qui connaissent la pire épidémie de coronavirus en Asie, ont jusqu'à présent entièrement vacciné un tiers des 77 millions de personnes éligibles au vaccin. Duterte a déclaré qu'il n'y avait aucune raison pour que les vaccinations quotidiennes ne puissent pas être augmentées à moins 1 million au lieu de 500 000 puisque le gouvernement disposait de suffisamment de vaccins, a déclaré Duterte, des responsables locaux qui n'administrent ou n'utilisent pas les doses qui leur sont données de la manière la plus appropriée, sera sanctionné et tenu responsable. Le président n'a pas mentionné le type de sanction en question. Le gouvernement a progressivement assoupli les restrictions liées à COVID-19 et a annoncé mercredi la levée du couvre-feu imposé dans la région de la capitale à partir de jeudi. Duterte a demandé à la police et à l'armée d'utiliser des avions et des hélicoptères pour accélérer la distribution des vaccins dans les provinces. L'ambassadeur de France en Australie, Jean-Pierre Thébault, a accusé l'Australie d'avoir agi de manière trompeuse lorsqu'elle a brusquement annulé un contrat de sous-marin de plusieurs milliards de dollars. C'est ce qu'a déclaré Tebow aux médias Canberra mercredi. Tebow a qualifié les actions de l'Australie de coup de couteau dans le dos, car il s'agissait d'un accord commun sur la souveraineté signé par la transmission de données hautement confidentielles. L'Australie a annulé en septembre un accord avec l'entreprise française de défense Naval Group et a choisi à la place de construire au moins 12 sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre d'un nouvel accord avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. La nouvelle alliance, nommée AUKUS, est conçue pour donner à l'Australie l'accès aux sous-marins à propulsion nucléaire pour la première fois. La décision a provoqué une rupture dans les relations bilatérales avec la France, retirant ses ambassadeurs d'Australie et des États-Unis en signe de protestation. La Banque asiatique de développement BAD s'associe à l'Indonésie et aux Philippines pour commencer à préparer un mécanisme de transition énergétique ETM. Cette collaboration est faite par la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP26, à laquelle ont participé le président de la Banque asiatique de développement, Masatsugu Asakawa, la ministre indonésienne des Finances Sri Mulyani Indrawati et le ministre philippin des Finances Carlos G. Dominguez. Masatsugu Asakawa, dans une déclaration officielle reçue à Jakarta, a déclaré mercredi que ETM peut transformer la lutte contre le changement climatique en Asie et au Pacifique. Asakawa a déclaré que l'Indonésie et les Philippines ont le potentiel pour devenir des pionniers dans le processus de retrait du charbon du banquet énergétique de la région. Cela contribuera grandement à la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre et amènera les économies de ces deux pays sur une trajectoire de croissance à faible émission de carbone. Pendant ce temps, la ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a déclaré que l'ETM est un plan ambitieux qui renouvellera l'infrastructure énergétique de l'Indonésie et accélérera la transition de l'énergie propre vers zéro émission nette. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, même par écrave, Sandiaga Uno, a discuté du potentiel de coopération dans les secteurs du tourisme et de l'économie créative avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Indonésie, Essam Attagavi, dans le but de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, lors d'une rencontre avec l'ambassadeur Essam Attagavi à Jakarta, comme dans un communiqué de presse mercredi. Au cours de la réunion, les deux ont discuté entre autres des politiques de visa des touristes, y compris pour le Hajj et la Umrah, les opportunités d'investissement et les promotions dans les domaines du tourisme et de l'économie créative. Le matériel de promotion du tourisme indonésien pour l'Arabie Saoudite serait en arabe. Par ailleurs, la ministre Sandiaga Uno a également demandé le soutien de l'Arabie Saoudite pour la mise en œuvre du G20 qui se tiendra en 2022. Pendant ce temps, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, Essam Attagavi, a invité des touristes indonésiens à se rendre en Arabie Saoudite, pas seulement à propos du Hajj et de la Umrah ou du pétrole et du gaz. Le pays est considéré comme ayant une forte culture afin qu'il puisse être exploré davantage par les touristes indonésiens. Le gouvernement indonésien coopère avec 13 pays pour recouvrer les créances fiscales apportées à l'étranger. C'est ce qu'a déclaré le personnel expert du ministère des Finances pour la conformité fiscale, Yon Arsal, lors d'une réunion avec les médias à la Direction générale des impôts du ministère des Finances à Bali mercredi. Yon a déclaré que ce programme fait partie du programme mondial d'aide à la collecte des impôts. Les gouvernements de ces 13 pays sont également prêts à aider à recouvrer les créances fiscales des Indonésiens vivant dans leur pays et vice-versa. Les 13 pays sont l'Algérie, les États-Unis, l'Arménie, les Pays-Bas, la Belgique, les Philippines, l'Inde et Laos, l'Égypte, le Suriname, la Jordanie, le Venezuela et le Vietnam. Un total de 11 hôtels dans la région de Nusa Dua Badung Bali qui sont gérés par l'Indonésie Tourism Development Corporation, ITDC, ont été désignés comme hôtels de quarantaine pour les voyageurs étrangers arrivant à Bali. La décision a été prise sur la base d'une lettre de recommandation du groupe de travail COVID-19 de la province de Bali à 55 hôtels à Bali en tant qu'hôtels d'hébergement ou de quarantaine pour les voyageurs de l'étranger dans la province de Bali. Le directeur général de Nusa Dua, Igusti Ngurah Ardita Denpasar, a déclaré mercredi que son parti continuait de se coordonner avec le groupe de travail COVID-19 de la province de Bali concernant la procédure opérationnelle standard pour accepter les touristes étrangers dans la région de Nusa Dua. Le président indonésien Joko Widodo a invité le prince héritier d'Abu Dhabi, le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, à être présent en tant qu'invité au sommet du G20 à Bali en 2020, lorsque l'Indonésie occupera la présidence du G20. L'invitation a été transmise par le président Joko Widodo lors d'une réunion bilatérale avec le prince Mohammed bin Zayed qui s'est tenue mercredi au palais à Chatti à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Le sommet du G20 se tiendra à Bali les 30 et 31 octobre 2020. L'Indonésie à la présidence du G20 en 2020 portera le thème « Recover Together, Recover Stronger ». La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, dans sa déclaration à l'Hôtel Emirates Palace, a déclaré que le prince héritier s'était félicité de l'invitation du président Joko Widodo. Outre la question du G20, les deux dirigeants ont également abordé divers sujets, dont la coopération dans le domaine des énergies renouvelables, la construction d'une nouvelle capitale, l'investissement et le commerce. Bonjour, c'est tard, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
C'est Zorita Bonsoir, voici le commentaire et encore le titre. les efforts de l'Indonésie pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone. Actuellement, un certain nombre de pays participent à la 26e conférence des parties COP organisée par les Nations Unies à Glasgow en Écosse de dimanche 31 octobre au 10 novembre 2021. Cette conférence vise à accélérer les efforts pour parvenir à l'accord de Paris dans le but de réduire l'impact du changement climatique causé par l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Le dernier rapport en 2021 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat cité sur https://wriindonesia.org révèle que les émissions de gaz à effet de serre, y compris le dioxyde de carbone, CO2, sont les principaux moteurs du changement climatique, provoquant une réaction en chaîne telle que des conditions météorologiques extrêmes, l'élévation de la surface de la mer et les catastrophes naturelles comme les sécheresses et les inondations. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre qui ont augmenté de 43% au cours des deux dernières décennies indiquent la possibilité d'une crise climatique pire imminente. Tous les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sont maintenant nécessaires de toute urgence. Tous les pays du monde, y compris l'Indonésie, doivent faire des efforts concertés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce que le report des réductions d'émissions peut avoir des impacts majeurs, y compris des impacts économiques. L'Indonésie s'est fixé pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 29% à elle seule et de 41% avec le soutien international d'ici 2030. Le gouvernement indonésien s'est engagé à atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cet engagement a été énoncé dans le document « Contribution déterminée au niveau national » NDC. Le gouvernement indonésien est très sérieux dans la mise en œuvre de son engagement à atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement indonésien a mis en œuvre diverses politiques et pris des mesures stratégiques. L'une d'elles est la politique sur la valeur économique du carbone. Le président Joko Widodo, lors de la 26e réunion de la conférence des partis COP à Glasgow, a déclaré que sa parti avait ratifié le règlement présidentiel sur la valeur économique du carbone. Le chef de l'agence de politique budgétaire du ministère des Finances, Febrio Kacaribu, dans sa déclaration officielle citée sur https://national.content.co.id de novembre, a expliqué que la stipulation du règlement présidentiel sur la valeur économique du carbone est une étape importante dans la définition des orientations politiques de l'Indonésie vers l'objectif NDC en 2030 et net zéro émission 2060. Les efforts du gouvernement indonésien pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ont besoin de soutien de la coopération avec les gouvernements d'autres pays. Parce que les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sont un gros travail qui nécessite de la coopération et aussi des grands fonds. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque peitai kouzhou, yi fangchi xin xing guangzhuang bingdu feiyan de chuanbo. Wo de kouzhou baohu ni. Kita kau jauh, bahu wa.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Cerita ke bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 4 novembre 1921. Le premier ministre japonais, Hara Takashi, a été assassiné à Tokyo. Le 4 novembre 1921, Hara a été poignardé à mort par Nakao Kakonichi, un gardien de chemin de fer, partisan de droite à la gare de Tokyo, lorsqu'il prenait un train pour Kyoto pour une conférence du parti. L'un des motifs de Nakaoka pour tuer Hara était que Nakaoka croyait que Hara était corrompu. Nakaoka a également été influencé par son supérieur qui était l'adversaire vocal de Hara. Initialement, Nakaoka a été condamné à mort, mais il a ensuite été condamné à la prison à vie, puis il a été libéré 13 ans après avoir commis le meurtre. Notre information sur Barack Obama a été élu du 44e président des États-Unis le 4 novembre 2008. Barack Hussein Obama II est un homme politique américain qui a été le 44e président des États-Unis après avoir remporté les élections le 4 novembre 2008. Il était le premier Afro-Américain à occuper le poste de président des États-Unis. Obama a prêté serment en tant que président le 20 janvier 2009. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 4 novembre 2010. Aéro Caribbean du vol 883 s'est écrasé au Cuba. Le vol Aéro Caribbean 883 était un vol international programmé de Port-au-Prince en Haïti à La Havane, Cuba, via Santiago de Cuba. Le 4 novembre 2010, l'ATR 72-212 Aéro Caribbean s'est écrasé dans la province de Santi Spiritus à Cuba. L'accident a tué les 61 passagers et 7 membres d'équipage. Au 5 novembre 2010, cet accident était l'incident le plus meurtrier de l'histoire de l'avion de type ATR-72 et le troisième accident le plus meurtrier à Cuba. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu, matahari jiwaku. Setelah sekian lama kita berdua memadu asmara, kini tiba waktunya ku mengutarakannya padamu. Oh, oh.
Dapat
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et on porte le titre. Le président Joko Widodo veut que le G20 soit un exemple de la coopération dans la lutte contre le changement climatique. Le président indonésien Joko Widodo a déclaré que les efforts des pays membres du G20 pourraient être un exemple de coopération dans la gestion du changement climatique. L'Indonésie veut que le G20 donne l'exemple, montre la voie au monde en travaillant ensemble pour lutter contre le changement climatique et gère l'environnement de manière durable avec des actions concrètes. C'est ce qu'a déclaré le président Joko Widodo à la Nuvola, Rome, en Italie, dimanche le 31 octobre, lors d'un discours dans la 10e session du sommet du G20 sur le thème du changement climatique, de l'énergie et de l'environnement. Le président Joko Widodo a déclaré que le G20 doit être un catalyseur pour la reprise verte et il s'est assuré qu'aucune des parties n'est laissée pour compte. Le président a déclaré que la gestion du changement climatique doit être placée dans le cadre large du développement durable. La gestion du changement climatique, selon le président Joko Widodo, doit progresser conformément à la gestion de divers autres défis mondiaux, tels que la réduction de la pauvreté et la réalisation des objectifs de développement durable ODD. Dans son discours, le président Joko Widodo a déclaré qu'en tant que l'un des propriétaires des plus grandes forêts tropicales au monde, l'Indonésie a une signification stratégique dans la lutte contre le changement climatique. La position stratégique est utilisée pour contribuer. Le président Joko Widodo a expliqué que la déforestation en Indonésie pourrait être réduite à son point le plus bas au cours des 20 dernières années. L'Indonésie a également réhabilité 3 millions d'hectares de terres critiques en 2010 à 2019. À cette occasion, le président a déclaré que l'Indonésie avait ciblé net zéro carbone pour le secteur foncier et forestier d'ici 2030 au plus tard, et net zéro en 2060 au plus tôt. La zone net zéro a commencé à être développée, y compris du parc industriel vert au nord de Kalimantan, couvrant une superficie de 13 200 hectares qui utilise des énergies nouvelles et renouvelables et produit des produits verts. Auparavant, dans un discours prononcé devant l'Assemblée générale des Nations unies il y a quelque temps, le président avait rappelé l'importance d'autonomiser des pays en développement pour effectuer des transitions énergétiques et d'encourager l'innovation technologique pour construire une économie mondiale durable. Le président souhaite donner une grande attention aux technologies qui peuvent être offertes par des pays de G20 aux pays en développement dans la transition énergétique.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Tak lagi satu, tapi saling merindu. Meskipun tak bersama, ku masih rasakan sinyal cintamu. Firasatku berkata, kau merasakan yang sama kasihku. Katakanlah saja bila, bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta, katakannya sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti dahulu kala.
need a ring like Melo. Hey, baby, I want you back now, back now. I ain't never gonna back down, back down. Me and you, it's a rap now. Baby, I can be your rock, smack down. You're the champ in my heart like Pacquiao. And I will always be the truth, facts now. Hey,
katakanlah saja bila. Apa kau berdusta? Katakannya sejujurnya. Jangan kau ragu. Katakanlah saja bila.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique du magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter le village touristique de Nusa à Aceh. Le village touristique de Nusa à Aceh est l'un des villages touristiques d'Indonésie qui porte le thème de l'éducation aux catastrophes. Situé à Lokna, dans le district d'Aceh Besar, ou à 30 km du centre-ville de Banda Aceh, le village touristique de Nusa est un village qui a été construit en dépendamment par la communauté après le tsunami qui a frappé Aceh en 2004. Si des touristes visitent le village, ils peuvent en apprendre davantage sur les catastrophes dans la région ainsi que sur la sagesse locale appartenant à la communauté environnante. Pour entrer dans ce village touristique, le visiteur ressentirait l'atmosphère du village qui est si beau. En vous rendant au village touristique de Nusa, vous pouvez voir l'étendue de rizières vertes et les rivières qui l'entourent. Le paysage est parfait avec les collines de Barisan en arrière-plan. Ils peuvent également profiter du paysage tout en campant et en pêchant dans la zone qui leur a été fournie. En plus de profiter de la beauté naturelle de la nature, les visiteurs peuvent également en apprendre davantage sur le recyclage des déchets. Les habitants du village touristique de Nusa traitent les déchets appropriés pour fabriquer des objets d'artisanat qui valent la peine d'être vendus. Les objets artisanaux que l'on peut trouver dans la région sont des boîtes à mouchoirs, des étuis à crayons, des fleurs synthétiques, des vases et d'autres décorations pour la maison. Les visiteurs peuvent également acheter des vêtements tissés typiques de la région d'Aceh Besar, ainsi que des sacs et des chapeaux fabriqués à partir de déchets traités. Les habitants du village touristique de Nusa conservent toujours leurs valeurs culturelles traditionnelles et locales, afin que les touristes puissent ressentir l'expérience de la culture du village. Ils peuvent voir les performances artistiques telles que la danse sedati, la danse rapai geleng, la danse ranup lampuan et la danse ratoh duek. En cadeau, en plus d'acheter de l'artisanat de la communauté locale, les touristes peuvent également acheter des chips untemeru, C'est l'un des produits économiques créatifs des habitants du village touristique de Nusa. Les snacks sont à base de feuilles de curry transformées en chips. Les feuilles de curry sont généralement connues comme ingrédients mélangés de la cuisine typique d'Aceh, ayam tangkap. Outre les chips untemuru, les visiteurs peuvent également déguster la soupe belangong, les chips de banane, le miel, le kembang goyang, le timpan asukaya, le gâteau sepet, le kekara et emping melinjo. Si les touristes veulent rester dans ce village, ils peuvent séjourner dans des maisons traditionnelles sur pilotis en bois construites par la population locale de manière indépendante. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée Celia Box Innovation dans le traitement des déchets de l'équipement de protection individuelle respectueux de l'environnement. Les besoins en équipement de protection individuelle continuent d'augmenter pendant la pandémie de COVID-19. Cela possède un impact sur l'explosion des déchets de l'équipement de protection individuelle à usage médical. Trois étudiants de l'Institut de technologie de 10 novembre, le membre de Team Kita, possède une idée d'un outil appelé Celia Box. Les trois étudiants sont Shirley Maulidiana, Atrasyonda Farizi et Laila Nur Fitria Devi. Cette innovation est un outil de traitement des déchets pour détruire les équipements de protection individuelle respectueux de l'environnement. Présidée par Shirley, l'équipe avoue des troubles publics sur les questions environnementales en raison de la gestion de déchets de l'équipement de protection individuelle qui ne répondait pas aux normes. Celia Box est alors apparue comme une idée potentielle pour résoudre ce problème. Selon Shirley, Celia Box est conçue sous la forme d'une enceinte fermée afin que le traitement de déchets infectieux ne pollue pas l'environnement. Après avoir été haché avec un broyeur, les déchets de l'équipement de protection individuelle passeront par un processus de stérilisation par micro-ondes à une température de 100 degrés Celsius. Cette méthode est plus respectueuse de l'environnement que les incinérateurs parce qu'elle ne produit pas de polluants susceptibles de polluer l'environnement. Cette idée a remporté la première place du concours de rédaction scientifique Horizon Scientifique 2021 sur le thème « Un mode de vie durable grâce à une innovation écologique pour l'Indonésie ». On espère que cette idée pourra apporter une bonne contribution à l'amélioration de la gestion de la COVID-19 en Indonésie sans perturber les aspects environnementaux. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Bangun dari mimpiku, tahu aku tak sendiri. Matahari pun serasa lebih cerah. Dengan kecup manismu, ku mulai melangkah. Ku nikmati tiap detikku, dengan namamu di hatiku. Ku rasa bahagia, dan hati berbunga-bunga. Kau buatku tergila-gila, tunduk hati aku setia selayaknya sihir. Kau buatku terjatuh, tapi tak berlangsung lama. Kau tinggalkan aku, kau pergi berjejak, tanya. Ayo ingat kata-katamu, kau tak akan tinggalkan aku. Ayo ingat kata-katamu, selamanya kamu hanya untuk aku.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
If it ain't about dancing, you better listen. I know you're on a mission. No touching, no kissing, no hugging, no lipping. Woke up in paradise, I'm seeing party lights. Say whoop whoop, say whoop whoop. Let's all get crazy live. Red box on me tonight. Say whoop whoop. Nah, 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 nah. But you ain't tryna listen. Don't mind me, I'm over here minding my business. I'm cutting, I'm twisting. Just watch me and witness. Woke up in paradise, I'm seeing party lights. Say whoop, whoop. Say whoop, whoop. Let's all get crazy live. Red box on me tonight. Say whoop. So loud.
No.
Nah, nah, nah.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical et je vais vous présenter une chanson de Nunung Wardiman. Chers auditeurs, Nunung Wardiman est connue comme l'une des meilleures chanteuses de jazz d'Indonésie. Son nom est devenu connu depuis qu'il a sorti deux séries d'albums Nada dan Improvisasi en 1981. Après cela, elle a sorti un album intitulé Nunung Wardiman en 1983. L'une des chansons principales de cet album est Surat Undangan, qui a été composée par Julius Viol. Cette chanson raconte l'histoire d'une femme qui reçoit un jour une lettre de son examen qu'elle aime toujours. Malheureusement, il s'avère que la lettre contient l'invitation au mariage de l'ex. Bon, chers auditeurs, voici Nunung Wardiman va chanter une chanson intitulée Surat Undangan. Bonne écoute.
sejak kau tinggal pergi, tiada kabar berita. Bacanya dan kecewa, apa kini harapan kekasih tak kembali yang ku terima.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.